Il y avait eu un pot ensuite dans le réfectoire de la maison des jeunes. Les parents avaient frayé avec d'autres parents qui les complimentaient. Mon père n'avait pas l'habitude. Il croyait s'en sortir en plaisantant. Les gens souriaient aimablement. Je sentais bien que les blagues étaient à côté de la plaque, mais lui s'excitait, sans se rendre compte de rien. À un moment, il a dit en rigolant, les narines rouges et dilatées, qu'il espérait bientôt pouvoir la foutre sur le trottoir avec un chapeau. Les gens se sont détournés et on s'est retrouvés seuls tous les quatre. Une autre fois, mon prof de musique au lycée avait organisé une sortie à l'Olympia pour voir Michel Polnareff. Mon père nous y avait conduits de plus tôt avec deux copines et leur mère. Dans la 4L de Sanichauf, qui était en fait notre voiture habituelle, il avait dit « Faudra quand même expliquer pourquoi l'éducation nationale nous envoie applaudir cette tantouse. » Quand mes copines entamaient leur adolescence et qu'il lui arrivait d'en croiser une à la maison, il lui tâtait le fessier ou empoignait un sein en s'exclamant « Oh, mais ça pousse tout ça! Tu deviens une grande fille, dis-moi Caroline !» La copine riait convulsivement et moi je disais « Papa, écoute !» Puis se marrait. « Quoi ? Je vérifie un peu la marchandise, c'est pas méchant. » Aujourd'hui, il irait droit en tôle. Il me faisait honte, mon père, souvent. Mais je n'ai jamais pu passer dans l'autre camp. Aucun personnage sur fond neutre ne m'a jamais intéressé. En dehors de Daniel, puis Emmanuel et Bernard, nous n'avons donné aucune précision sur l'affaire. Je n'ai parlé à personne de mon implication, ni de mon séjour chez les flics, même pas à Jeanne, de toute façon dévorée par sa passion érotique. Catherine Mussin était la seule à dire « la pauvre », parlant de Lydie. Les autres ont considéré l'événement comme abstraitement horrible et se sont montrés curieux des détails et du pourquoi. Il me faut avouer avoir éprouvé une certaine délectation à annoncer la chose. On n'est pas fâché d'être le porteur d'une nouvelle sensationnelle. Mais il aurait fallu s'en tenir là, pouvoir raccrocher aussitôt et n'être entraîné dans aucun bavardage. Il n'y a pas de pureté dans la relation humaine. La pauvre. Je me demande si le mot convient. On ne peut soumettre que des êtres vivants aux critères de notre condition. C'est absurde de plaindre un mort. Mais on peut plaindre la destinée, le mélange de la souffrance et d'une probable inanité. Oui, en ce sens, la pauvre convient. Je peux dire les pauvres pour mon père, pour ma mère, Joseph Denner, le couple de Savannah, le témoin de Jéhovah devant le mur immense, certains disparus de mes livres en noir et blanc, les sapés comme des rois de San Miguel, parmi les fausses fleurs, dont on devine que l'existence n'a pas toujours été rose, les innombrables obscurs d'avant, tous ceux dont les journaux charrient la mort dans le non-sens total. Me revient cette phrase de Yankelevitch à propos de son père. À quoi rime cette promenade qu'on lui a fait faire dans le firmament du destin? Doit-on dire « la pauvre » pour Lydie Gumbiner? Dans son monde coloré, Lydie Gumbiner est flottée au-dessus des vicissitudes. Je ne peux penser à elle qu'en mouvement. Je la vois traverser le parking en dandinant ses vêtements, comme une petite femme filante de Georges Gross, ou alors tapoter le creux de sa gorge dans une turbulence de cheveux. Sur son dépliant, elle avait écrit « La voix et le rythme comptent plus que les mots et le sens. » Lydie Gumbiner avait chanté, milité, fait tourner son pendule. À sa façon, elle avait escamoté le néant. La mère de Daniel a accepté de prendre Eduardo. Nous sommes convenus de le lui amener le dimanche suivant à Sucy-en-Brie. Entre-temps, j'avais réglé une chose qui me tracassait. Après observation attentive de notre façade d'immeuble, je suis montée chez le voisin du sixième, M. Apparicio, un retraité des PTT très peu causant. En passant devant la porte des manuscrits